Et la dernière demi-heure de cette rétrospective, l'année environnementale 2004 à Delirium environnemental, que je vous répète, vous pouvez trouver sur Internet au www.radiodelirium.net pour aller réécouter les émissions, mais également pour aller consulter les archives et les différentes nouvelles qu'on utilise pour vous faire ces rétrospectives et ces revues de presse tout au long de l'année. Donc, on n'a pas eu le temps de terminer, alors on va prendre le temps de terminer puisque c'est important. On parlait de biodiversité, c'est vrai, on va enchaîner sur le dossier de l'eau, parce que l'eau, c'est un dossier chaud. C'est un dossier qui n'a pas tellement occupé, d'après moi, ou selon ma lecture, l'espace public, mais pourtant, qui a été très important. Donc, il n'a pas suscité de grande mobilisation. Une chance qu'au secours est là au Québec, parce qu'autrement, on dormirait au gaz, puis ça ferait longtemps qu'on aurait vendu notre eau aux États-Unis.
Au secours, qui est une coalition citoyenne, qu'on vous invite encore une fois à visiter leur site web, font de l'excellent travail.
Au secours.org, une banque d'informations hallucinante, puis en tout cas, il y a plein d'artistes qui sont impliqués avec Au secours, mais surtout, ils font un travail de fond exceptionnel. Merci d'être là, Au secours, André Boutier et tous les autres. Donc, un dossier important, entre autres, parce qu'il y a des velléités d'exportation d'eau en vrac au Québec, parce qu'on veut peut-être taxer l'eau au Québec, parce qu'on était supposé peut-être d'avoir une politique, puis on ne sait pas trop ce qui se passe.
Mais dans le fond, depuis 2002, la politique nationale de l'eau, on n'a pas vraiment entendu le gouvernement, du moins au Québec, donner sa véritable idée sur ce qu'est l'eau. Et c'est sans doute ce qui retient davantage de débats, c'est quel statut on donne à l'eau au Québec. Mmh. Et il y a plein d'exemples qui viennent nous montrer ça. Premièrement, il y a toutes les questions de privatisation de l'eau. On vous en a parlé beaucoup avant Noël. Toutes les questions de projet de loi 61-62, donc sur la privatisation des services liés à l'eau dans les municipalités, donc qui donne un accès direct à l'entreprise privée sur les services liés à l'eau. Donc on ouvre la porte à cette question
de privatisation.
Ce n'est
pas de la privatisation, selon eux. C'est bien sûr un PPP dont on a entendu parler.
Monique Jérôme Forget, sortez du corps de Patrick Bonin, s'il vous plaît.
Non, je voulais vous remettre en contexte. C'est vraiment le discours qu'on tient. On parle de donner l'eau pour 25 ans à différentes entreprises qui vont en faire la gestion.
25 ans, c'est une génération au complet.
Exactement.
Laissez-moi tranquille avec ça. Tout peut changer en 25 ans.
C'est tout comme de la privatisation, donc.
Et voilà. Donc, il y a cette question de privatisation d'eau-là. Il y a la question des compteurs d'eau qui a marqué le début du règne Mulcair et qui continue à le suivre tout le long.
C'est comme un fantôme.
C'est ça. Hein,
c'est pas une ressort des fois, on s'y attend, on n'est pas sûr, il n'est pas clair là-dessus.
Donc voilà,
M. Mulcair, ministre de l'Environnement du Québec.
Le ministre de l'Environnement qui proposait cet automne de, dans le fond, déléguer aux municipalités une espèce de taxe qui fait en sorte que les municipalités devront trouver de l'argent parmi leurs ressources possibles pour subventionner les services liés à l'eau. Et donc, c'est les industries, c'est les commerces et c'est les citoyens. Alors que la politique de l'eau voulait aller beaucoup plus graduellement que cela, favoriser la taxation au niveau des industries, puis des commerces, et ultimement, si cela nécessaire, les individus.
La fameuse taxe dont on parle, cette taxe-là, c'était la taxe de 1 cent le mètre cube qu'on voulait mettre en place, que M. Mulcair voulait mettre en place, ministre de l'Environnement. Juste pour vous donner une idée, 1 cent le mètre cube, c'est 1 cent pour 1000 litres d'eau. Et les multinationales de l'eau, entre autres, on pense à Danone, Nestlé et nommez-les, ils sont partout au Québec, eh bien, ils seraient sur le même niveau, sur le même pied d'égalité que le citoyen qui, lui, utilise ça pour des besoins essentiels, tandis qu'elles utilisent ça, justement, pour faire du profit. Et lorsque vous vendez un litre à 1$, laissez-moi vous dire que si vous payez 1 cent pour le 1000 litres de taxe, vous êtes complètement crampé en deux lorsque vous appelez Danone ou Nestlé. Et ça, c'est des ponctions dans nos nappes phréatiques, c'est des réserves, c'est des richesses naturelles québécoises. On est en train de les pomper, on ne fait rien. Et on va encore une fois demander aux petits citoyens de payer pour se brosser les dents quand l'autre s'en met plein les poches.
Un autre élément qui a beaucoup fait jaser, c'était à la toute fin de l'année, la nomination de M. Cosgrove à la tête du BAP. On sait que le Bureau d'audience publique en environnement est l'arbitre des litiges environnementaux, pas tant au point de vue légal. En fait, c'est un organe d'aide à la décision. Et puis, on a nommé cet homme-là qui, auparavant, était à la tête du Conseil mondial de l'eau, qui était justement pour la privatisation, tout acabit de l'eau partout dans le monde pour pouvoir faire la pièce avec ses amis des multinationales.
Il y a quelqu'un aussi qui faisait partie de la Banque mondiale, qui a déjà été VP de la Banque mondiale. Donc, c'est quelqu'un qui, de toute évidence, à la tête du Bureau d'audience publique en environnement, qui devrait porter un regard extérieur à l'appareil gouvernemental sur les questions de développement et porter un regard sur les questions environnementales, mais que lui est déjà vendu à l'idée des partenariats publics-privés qu'on tente d'implanter partout au Québec. C'est vraiment triste comme situation.
C'est triste comme situation, surtout sachant que le BAP est un organe neutre, tu l'as dit, c'est absolument important, et que cet homme-là, M. Cosgrove, ne s'était-il pas déjà présenté
libéral
pour le Parti libéral?
Ben oui,
libéral, hein, il ne va pas être super bon, mais non, nous, on le nomme quand même à la tête du BAP, donc quelque chose à garder à l'œil, les décisions et les orientations que va prendre le BAP dans l'année à venir, un dossier à garder à l'œil.
Pendant que tu mentionnais M. Cosgrove, quand il était au Conseil mondial de l'eau, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois de mars 2004, il avait annoncé un virage à 180 degrés pour le Conseil mondial de l'eau. En fait, le Conseil mondial de l'eau qui considérait vraiment l'eau comme une marchandise et qui avait utilisé un discours beaucoup plus neutre et en fait en faveur du contrat mondial de l'eau qui dit l'eau comme étant un bien commun. Ce changement-là, je ne sais pas si c'est ça qui a provoqué son départ du Conseil mondial de l'eau.
Non, mais il y a une gamique derrière tout ça. On en parlait à la dernière émission en 2004, en décembre, en disant qu'en fait, la chose, si je peux me permettre, qui s'est produite, c'est qu'il y avait un conflit au niveau du statut de l'eau. Doit-on reconnaître l'eau comme un droit ou un besoin? Et puis, à la dernière minute, monsieur avait dit, ah oui, finalement, ça va être un droit, en s'apercevant qu'en disant ça, de l'autre main, il pouvait dire, ben justement, si c'est un droit, voici mes amis, les entrepreneurs de pompes d'eau, pour vous vendre de l'eau à tout le monde, puisque c'est un droit. Incroyable, mais vrai. Toujours dans le bilan de l'année 2004, une année importante en environnement, peut-être l'année de l'éveil au Québec, qui sait, il y en avait qui travaillaient dans l'ombre depuis des années, puis enfin c'est arrivé sur la place publique, on parle officiellement d'environnement dans les médias, et beaucoup quand même, donc merci, bravo, on est content. Le dossier de l'eau, on le disait, c'est un dossier qui est important et qui va continuer d'être extrêmement important, tant pour le Québec que partout, pour toute la planète. Les velléités du gouvernement Charest de vouloir exporter l'eau et en vrac, s'il vous plaît, sont assez inquiétantes. Toi, Patrick, ça te préoccupe. Et t'as donc suivi le dossier?
Ben, avec raison, je crois. Écoutez, pendant 5 ans, on a une commission d'enquête, il y a cinq ans, une commission d'enquête du Bureau d'audience publique en environnement pour savoir l'eau, justement, une commission qui portait sur l'eau au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau? Et la recommandation, c'était, on fait pas d'exportation d'eau en vrac. Monsieur Mulcair, qui est ministre de l'Environnement, et non pas ministre des Finances ou ministre de l'Économie ou du Développement industriel, se décide comme ça de changer complètement de chapeau, de plus penser à l'environnement et de vouloir faire de l'argent avec l'environnement en voulant exporter l'eau en vrac au Québec. Et c'est complètement problématique quand, entre autres, on ne sait pas c'est quoi les niveaux des nappes phréatiques, le niveau de rechargement de ces nappes-là. Les études sont pas faites, on n'a pas l'argent pour le faire. Et lui, il veut faire l'argent en profitant de tout ça. Ça, c'était l'été passé. Depuis, ça a été un peu mis sur la couverte, si vous voulez, parce que, justement, il s'est fait rabrouer par, entre autres, la Coalition Secours et les autres groupes environnementaux qui ont dit « ça n'a aucun sens, écoutez, on s'en va, on retourne 5 ans en arrière ».
Ça ressemble à un coup de masse, ça, là.
Mais oui, c'est vrai que ça ressemble à un coup de masse. T'aurais presque pu te le garder.
Un autre dossier qui va être important à suivre au sujet de l'exportation de l'eau, c'est la fameuse exportation de l'eau des Grands Lacs. On sait qu'il y a le Conseil des gouverneurs des Grands Lacs qui est constitué de 8 gouverneurs d'État états-uniens, du premier ministre de l'Ontario et de notre cher Jean Charest, qui ne saura probablement pas bien défendre ces intérêts-là, et bien qui envisage la possibilité de sortir de l'eau des Grands Lacs pour la sortir du système. Et jusqu'à présent, la Commission mixte internationale qui est chargé de surveiller toute l'eau qui est entre le Canada et les États-Unis, était très, très strict là-dessus. Toute ponction d'eau qu'on fait dans les Grands Lacs doit retourner aux Grands Lacs. Et là, ce conseil-là, qui est un conseil d'élus, qui représente, dans le fond, des personnes qui sont élues par le peuple, eh bien, nous dit, est-ce que, oui, mais on pourra faire quelques règles qui permettront d'éviter cette procédure-là. Et il y en a, entre autres, au Midwest américain, qui regardent l'eau des Grands Lacs avec des yeux gros comme des deux piastres et qui disent, amenez-les ici parce que nous, on n'en a pas.
Qu'est-ce qu'ils veulent en faire?
Ben, c'est-à-dire que jusqu'à présent, toute l'eau qui était dans les Grands Lacs devait y retourner. Maintenant, on se dit qu'il y aura des possibilités d'exporter, par exemple, 1 million de litres d'eau par point de puisement
par
à l'extérieur.
Point de
Et ça peut être très, très dangereux comme mesure.
La question était, est-ce qu'ils veulent l'utiliser pour la boire? Parce que si je me souviens bien, en 2004, on a appris par les études de l'OCDE, il me semble, que les Grands Lacs continuaient d'être, étaient contaminés et au mercure et aux antibiotiques, et ce, de façon inquiétante. Donc, s'ils veulent exporter cette eau-là pour la boire, ben ils risquent de prendre une bonne tasse de médicaments.
Ben, ils vont faire comme nous autres, puisqu'on boit la même eau.
Oui, mais peut-être que ça a le temps de se défaire un peu entre les grands lacs et la prise dans le fleuve.
Si c'est pour la consommation directement humaine, ils trouveront certainement dans le Midwest américain l'argent pour décontaminer cette eau-là. Ah ouais. Mais de toute façon, c'est surtout l'agriculture et aussi les terrains de golf là-bas qui puisent beaucoup de
données. Ah, incroyable.
Besoin.
Donc ça, c'est un dossier qui sera à suivre parce qu'aucune décision n'a été prise pour le moment.
En même temps, suivons l'élargissement de la voie maritime de Saint-Laurent qui rentre aussi dans la même veine.
Ça n'avait pas été repoussé, ça, par le Bloc?
C'est repoussé par le Bloc, mais ce n'est pas repoussé complètement dans la tête du gouvernement fédéral.
Donc, en fait, d'autres thématiques à garder à l'œil pour l'eau au Québec. Et
lorsqu'on parle de c'est repoussé par le Bloc, évidemment, on parle du Bloc québécois qui, lui, est sorti lors de ce projet-là, qui était l'élargissement de la voie maritime de Saint-Laurent pour amener justement les bateaux dans les Grands Lacs. Et bien, le Bloc québécois fait partie de cette coalition-là de 200 organismes environnementaux, plus ou moins, en disant, écoutez, ça n'a pas d'allure, notre fleuve, on a déjà assez de difficultés comme ça, on l'a déjà assez massacré, laissez-le tranquille 2-3 secondes. Et entre autres, en termes économiques, encore plus pour M. Charest. Ça peut être énormément dangereux, l'histoire du port de Montréal, mais juste environnemental, c'est une idée qui était complètement aberrante.
On a fait le tour pour l'eau. Pour le petit 2 minutes qui nous reste, messieurs, vous aviez des choses à dire concernant le transport.
Transport, que dire, sinon l'avènement de la voiture hybride encore en 2004, de plus en plus de ventes de cette voiture hybride-là, pas encore de programme de remise redevance ou d'incitatif si vous voulez acheter des véhicules qui consomment pas beaucoup au Canada, pas de législation au niveau des émissions des véhicules, pas de loi au niveau fédéral canadien, on des mesures volontaires disant vous pouvez réduire les émissions de vos véhicules, mes belles industries, GM, Ford, nommez-les, ceux qui couchent avec quelques ministre, d'après ce qui paraît, parce que ça bouge pas. Et la fameuse Californie, qui lui ou elle, je ne sais plus, est un... Mais on connaît son gouverneur. Mais qui a dit, justement, d'ici 2009, 25% de rémission... 25% de réduction des émissions polluantes de la part des véhicules et toutes les entreprises automobiles qui décident de poursuivre, justement, la Californie, disant ça n'a pas d'allure. Mais le Canada, qui n'a pas emboîté le poids, ça fait 4 ans qu'on négocie avec les fameuse compagnie automobile pour essayer d'avoir quelque chose comme qui ressemblerait à une entente, mais ça marche pas du tout. Transport en commun, je pense qu'il faut qu'on en parle absolument. Je sais pas si vous habitez près de Montréal ou près d'une agglomération où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. C'est pathétique au Québec, il n'y a pas de transport en commun. Le provincial n'investit pas, le fédéral investit à peine des petites miettes, et là, c'est la voie de l'avenir. Entre autres au Québec, on a de l'électricité, on a des fabricants bombardiers de trains, de limite, pas de tramway. Il y a des coalitions qui se sont mises sur pied et on veut du transport en commun. C'est la moindre des choses que de ne pas perdre 2 heures par jour pour aller travailler au centre-ville si vous avez à le faire.
Ah oui, c'est ridicule que d'y aller en vélo ou à pied, ça va plus vite qu'en transport en commun. Puis il y a l'augmentation de la CAM. Comment est-ce qu'on peut passer à côté? Parce que ça, si on veut se tirer dans le pied, augmenter les prix, c'est un peu la meilleure façon de le faire.
Ben, écoutez, ça n'a même pas d'allure. C'est combien? On parle de près de 18% encore d'augmentation. La CAM, qui est la carte justement pour avoir accès aux autobus gratuits et au métro à Montréal, on n'arrête pas d'augmenter ça, de mettre le prix, le tarif qui augmente, tandis que le tarif pour les automobiles n'augmente pas. Les immatriculations, ça n'augmente pas. Donc, il y a beaucoup moins de gens qui sont incités à prendre le transport en commun.
Donc, un autre dossier à garder à l'œil. Thank you. Et le temps file et passe et nous n'aurons pas le temps de vous parler de tous ces dossiers qui ont marqué 2004. Mais pour se donner la chance d'en couvrir le plus possible pour ce dernier petit bloc de la rétrospective 2004, on se les fait en rafale. Si vous voulez, moi je brise tout le temps, tout de suite la glace avec une petite nouvelle, ma foi, qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Vous allez me dire, ouais, c'est pas nécessairement de l'environnement. C'est pas de l'environnement peut-être, sauf que ça brise des choses au niveau de l'imaginaire collectif. Et je parle de ce chat clowné qu'une petite madame bien fortunée a pu se procurer pour la rondelette somme de 50 000 $. Une compagnie américaine donc propose aux fanatiques de leurs petits animaux domestiques de les cloner pour des petites sommes comme 50 000 $. Ça s'est passé au Texas au mois de décembre.
Ben oui, mais ça faisait 9 ans qu'elle l'avait, là.
Ça faisait 17 ans qu'elle l'avait. Elle l'aimait, ça n'avait pas de bon sens. Moi, j'ai un chien, ça fait 12 ans que j'ai. Je l'aime, ça n'a pas de bon sens, mais je ne le ferai jamais cloner. Pauvre petite bague, il y en a plein à la SPCA qui se meurt. Tout ce que je dis, moi, c'est que c'est l'explosion des technosciences du vivant, ben, et que quand on laisse des entreprises faire de l'argent sur des choses comme ça, on se dit « Oups, l'ail, où cela va? »
Eh bien, parlant de chat, je ne peux passer à côté de celle-là. Le fameux chat OGM pour 3 500 $ US, procurez-vous ce fameux minou hypoallergique. Donc, si vous êtes allergique au chat, éventuellement, c'est une compagnie californienne qui a sorti ce qu'on appelle le Frankenpet, donc qui va permettre probablement d'ici 2007 à plusieurs millions d'Américains d'avoir, d'États-Unis, pardon, d'avoir ce félin chez eux. Et ça, c'est un chat OGM. Il y a également la cocaïne transgénique qui a été amenée cette année.
Ah oui.
Et oui, c'était dans le journal. Et il y a également le mosquito, si vous voulez, l'insecte génétiquement modifié pour ne pas donner la malaria. Donc, l'avènement des génétismes, du génétisme.
Je pense que moi, puisqu'on est en rafale, un dossier qui m'a marqué encore une fois en 2004, c'est l'avènement du gros brun. Vous connaissez le Asian Express ou l'espèce de méga nuage de pollution qui se forme en début d'hiver, en fait en janvier-février, au-dessus de l'Asie, et puis qui se transporte jusqu'aux États-Unis. Vous savez, ça fait 2 ans qu'on en entend parler. Puisqu'il peut atteindre les côtes de la Californie, eh bien c'est un nuage carrément gigantesque, fait de particules fines, d'ozone troposphérique, de CO2, de monoxyde de carbone. Et puis, évidemment, ça l'affecte la santé. Mais encore une fois, en 2004, on l'a observé, il était plus gros que jamais, et il a affecté des milliers de personnes. Donc, le Asian Express...
Bien, avec le peu de temps qui nous reste, je crois que je vais essayer de glisser tout de suite un mot sur la commission Coulomb, qui a quand même été un événement marquant de l'année 2004. La commission Coulomb, donc, était une commission sur l'étude de l'industrie de la foresterie en milieu boréal au Québec, et bien qui a donné un rapport très, très intéressant cet automne sur l'état des choses. Premièrement, la méconnaissance que l'on a du stock d'armes que l'on a, ou plutôt la connaissance nettement plus concise du fait que l'on en exploite beaucoup trop, que l'on sort beaucoup trop d'armes par rapport au niveau de régénération. Donc c'est une chose, peut-être Nicolas, tu peux abonder dans le même sens.
Mais je pense que c'est un rapport extrêmement positif qui est vraiment allé dans le même sens que la plupart des recommandations des groupes environnementaux. Ce qu'il faut retenir, c'est que la commission recommande carrément qu'on réduise de 20% le volume de bois qu'on retire de la province. Tu parlais de la forêt boréale, en fait c'est la forêt québécoise en général. Et puis la commission Coulomb a fait plusieurs recommandations, notamment d'y aller dans le bon sens pour les aires protégées. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, on a très peu d'aires protégées au Québec. En fait, légalement, on ne peut pas exploiter seulement 3% de notre forêt au Québec, imaginez. Les vrais chiffres, c'est 5,29, je crois, d'aires protégées, mais c'est très peu ce qu'on protège en ce moment. Donc, on vise le 8% pour 2008, puis le 12% pour 2010. Peut-être que je me trompe sur les chiffres, mais bon. Une commission qui a vraiment lancé, encore une fois, l'appel directement au gouvernement, comme la vérificatrice générale l'avait fait en 2002. Un excellent bilan, selon moi, sur la forêt québécoise, qui est allé chercher tous les intervenants de la forêt, autant point de vue communauté que scientifique, que ONG et bon.
Mais
je pense
que ça va demander à tout le monde de faire preuve d'imagination, parce que quand on coupe une source de revenus de l'ordre, si on coupe les coupes forestières, on arrête de l'ordre de 20%, c'est sûr qu'il va falloir faire preuve d'imagination pour relocaliser ces emplois-là dans des emplois peut-être plus durables, qui sait, parce que ça chiale un peu en région sur justement la commission Coulomb. Mm-hmm. Oui, c'est beau pour l'épinette, mais c'est dur pour les régions et les emplois en région. Ben, faisons preuve d'imagination. Je suis sûre qu'on en a plein. Autre nouvelle, peut-être en rafale, qui a marqué l'année 2004, ou de la commission Coulomb, qui était partie quand même. Disons-le que l'opinion publique avait été réveillée par ce magnifique film de M. Richard Desjardins, L'erreur boréale.
Ben, autre commission, en fait, c'est pas nécessairement une commission, mais c'est notre fameuse commissaire au développement durable et à l'environnement au niveau fédéral, qui à tous les années donne un rapport, et encore une fois, un rapport, accablant et complètement démoralisant pour le gouvernement fédéral. Écoutez, les ministres fédéraux, ils ne tiennent rarement compte des impacts environnementaux dans leurs décisions. On a des directives par rapport au développement durable depuis 14 ans, des politiques au sein du gouvernement fédéral depuis 14 ans, et on se fait dire en 2004 que, écoutez, vous êtes complètement à côté. L'environnement ne figure vraiment pas dans la liste des priorités au niveau gouvernemental. Et la même chose avec un rapport de l'OCDE, qui est l'Organisation de coopération et développement économique, qui dit que le Canada intègre de plus en plus, oui, la philosophie du développement durable, soit en vous et moi, le terme développement durable, mais que dans le fond, il faudrait absolument qu'il change sa fabrication de tout, entre autres, au niveau de l'intensité énergétique, l'utilisation de l'énergie dans son économie, la lutte au changement climatique, ça va pas bien, les subventions qu'on donne aux entreprises polluantes, et de commencer, s'il vous plaît, à envisager des taxes liées à l'environnement, soit de faire payer les pollueurs.
Hey, c'est déjà ce qui va compléter la rétrospective 2004. Il me semble qu'on a eu le temps de parler, d'à peine soulever la couverte pour voir ce qui se passait en environnement. Il s'est tellement passé de choses en 2004. S'il y a eu une année charnière, j'ai l'impression que c'est celle-là. Donc l'année 2005 ne pourrait être que plus passionnante pour nous qui tentons de couvrir l'actualité environnementale. Quand on termine Délirium environnemental, on se fait tout le temps le plaisir de faire des coups de cœur, coups de masse et au calendrier cette semaine. Et là, en plus des coups de cœur, coups de masse pour soulever peut-être les passions, je vous demanderai en rafale les questions auxquelles vous répondrez selon votre discussion. Donc, quel est l'événement environnemental de l'année 2004 selon vous? La nouvelle la plus catastrophique en environnement cette année pour l'année 2004? La nouvelle la plus porteuse d'espoir? La nouvelle la plus absurde? La percée technologique de l'année? C'était juste pour vous donner des idées, mais sinon, nos classiques coups de cœur, coups de masse font très bien l'affaire, messieurs.
Eh bien, je dois pleurer parce que on doit des fois se rendre compte qu'il y a des choses tristes. Malgré les beaux discours de développement durable et de je ne sais quel plan d'avant-projet du provincial, eh bien, coupure dans le ministère de l'Environnement lors du dernier budget. On parle de coupure de près de 16 millions de dollars et voilà comment couper les vivres à un gouvernement qui ne va pas bien. Eh bien, après ça, parlez-moi de développement durable, hein?
On se rappelle que le budget Séguin avait aucun mot environnement dans son budget, 42 pages. Incroyable.
Mais vrai.
Bien, moi, je vais vous parler de la nouvelle la plus absurde, ou du moins de la citation la plus absurde de l'année. Madame Julie Boulet, qui est ministre au transport au gouvernement provincial, qui nous disait que la carte CAM, toutes les mesures favorisant des réductions pour l'accès au transport en commun, étaient à l'encontre d'une bonne gestion d'un réseau de transport en commun. Alors que partout dans le monde, on nous prouve que plus on donne un accès facile au transport en commun, plus le monde y va, plus il est en santé et plus il est efficace.
La nouvelle la plus absurde est la percée technologique la plus absurde. L'Australie qui décide de semer des nuages en envoyant de l'iodure d'argent dans le ciel. Pourquoi? Pour encourager ses centres de ski. Eh oui, un financement gouvernemental pour que les centres de ski en Australie reçoivent plus de neige en garochant de l'argent dans l'air.
Mais nouvelle absurde ou coup de marge, j'en sais rien, mais je sais pas si vous vous souvenez, au mois de février 2004, il y a 3 cochons transgéniques qui se sont retrouvés à l'écarissage. L'écarissage, c'est la façon cute de dire à l'abattoir avec tous les autres animaux normaux. Ils se sont donc retrouvés dans de la moulée pour poulet. C'est pas là qu'on est rendu? Oui, c'est là qu'on est rendu. Le saviez-vous, vous, qu'on avait des porcs transgéniques au Québec?
Bien, moi, la nouvelle peut-être la plus triste de l'année, c'est une petite nouvelle qui a peut-être pas fait les manchettes. Le 6 janvier 2004, il y avait un accord de dernier entre l'Israël et la Turquie de l'eau contre des armes.
Ah, c'est laid, ça fait mal.
Peut-être parler des dernières élections qu'il y a eu au niveau fédéral. Eh bien, le Parti vert qui a quand même été impressionnant. Des représentants dans chaque circonscription canadienne, malgré le fait qu'on n'ait pas de proportionnel. En fait, à cause du fait qu'on n'a pas de proportionnel, eh bien, on n'en a aucun à l'Assemblée nationale. Mais bon.
Puisque t'es en politique, nouvelle porteuse d'espoir, l'arrivée, la naissance de Projet Montréal, un premier parti municipal à Montréal qui est définitivement vert et porteur d'idées vertes et de développement durable, donc extrêmement intéressant à suivre en 2005, évidemment, avec les élections municipales.
Projet Montréal qui parle beaucoup de transport en commun. Soyez à l'affût, allez voir sur le site d'Équiterre, sur le site de Greenpeace, qui sont des organismes qui poussent beaucoup pour le transport en commun, parce qu'il va y avoir des manifestations, je vous le promets, devant le bureau du maire de Montréal sous peu, soit probablement en mois de février, début février. Et soyez présents. Il faut mettre de la pression sur nos politiciens parce qu'ils n'investissent pas.
D'un petit élément au calendrier, on ne peut pas passer à côté. Du 20 au 22 janvier 2005, là, c'est très, très bientôt. Il y a l'Éco-défi 2005 qui est un colloque, international sur la santé et l'environnement. Il y a plus de 50 spécialistes du monde entier qui vont venir vous parler de toutes les problématiques environnementales liées à la santé humaine, bien entendu. C'est absolument passionnant. Pour avoir plus d'informations, vous allez sur notre site Internet ou encore au www.ecodefi.org. Vraiment, les consulter leur programmation, c'est impressionnant.
Eh bien, moi, je mettrai à votre calendrier une petite idée. Vous savez, l'hiver jusqu'à la fin février, début mars, on siège pas à l'Assemblée nationale à Québec. Mais c'est un moment où l'actualité environnementale souvent se laisse passer plein de choses, justement parce qu'elles ne sont pas débattues en chambre. Suivez l'actualité, ça vaut la peine.
Hey, c'est un bon mot pour nous autres, ça. Merci beaucoup. À toute l'équipe de Derium Environnemental, le temps passe trop vite. On en est encore désolé. Toute l'équipe qui fait la magie de cette émission, c'est Nicolas Milo, Patrick Bonin, Nicolas Mainville, Étienne Côté-Paluc à la conception du site web ainsi qu'à la mise en onde. C'est également Hugo Lachapelle qui est sur les routes canadiennes présentement. Et c'est moi aussi, Sofiane Legendre, qui va faire relâche pour les prochaines semaines. Question de revenir en force et maître. Je me comprends. Tout ça pour dire que la semaine prochaine, vous allez parler d'eau en bouteille, entre autres choses, avec deux intervenants. Ça risque d'être triste. Ça risque d'être passionnant. Moi, je serai là pour vous écouter. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous écouter encore sur notre site Internet au www.radiodelirium.net. Vous pouvez également vous inscrire à la cyberlette afin qu'on vous l'envoie à toutes les semaines.